RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On parle écologie et numérique ce matin, vous l'entendez. Il y a une notion que vous avez d'ailleurs entendue dans la première partie, c'est l'obsolescence programmée, ou quand les fabricants réduisent délibérément la durée de vie d'un produit souvent technologique. Mais comment agir à notre niveau contre l'obsolescence programmée? On en discute jusqu'à 11h avec nos deux invités. Est-ce que vous avez pu constater par vous-même un impact de cette obsolescence sur vos outils comme smartphone, imprimante, ordinateur, télévision, qui au bout d'un certain nombre d'années semblent dépassés et inutilisables? Si oui, est-ce que vous avez pris l'habitude de réparer vous-même ou d'aller par exemple dans un repair café, ou au contraire vous préférez jeter pour acheter neuf? Est-ce que vous êtes adepte peut-être aussi de l'occasion ou du reconditionnement? Vous avez la parole au 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui réceptionne vos appels par mail également à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook, Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis sur RCF.
Et pour nous accompagner pendant une heure, deux invités, Alissa Jay Maï, qu'on accueillera dans un instant, qui est responsable du pôle projet pour l'association WeFund, une association dont la mission principale est d'offrir un accès à l'éducation numérique aux élèves qui sont dans le besoin via le réemploi, la réutilisation d'ordinateurs issus des entreprises. Gilles Reynaud est avec nous également. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RCF. Vous êtes le président de l'association Repair Café Paris. Est-ce que vous pourriez commencer par nous repréciser ce qu'est un Repair Café, Gilles?
Donc, déjà, merci de m'avoir invité. Les Repair Café, ça vient d'une initiative de néerlandaise de dire bien réparer plutôt que de jeter. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est une excellente initiative. Cependant, comment ça se matérialise? En fait, nous mettons en place des rencontres entre des réparateurs et des bénévoles aussi à l'organisation, hein, parce qu'il n'y a pas que des réparateurs, il y a toute une organisation autour.
Oui.
Et des personnes, des participants qui amènent leurs objets et qui nous demandent de les aider à les réparer. Au moins déjà identifier la panne et puis proposer des solutions, des idées. Et c'est une initiative donc sur Paris qui s'est concrétisée en association depuis 2013.
Oui.
Et nous avons donc des activités dans tous les arrondissements de Paris, à la fois sur des événements assez grands qui sont un petit peu mis en sommeil en ce moment à cause de la crise sanitaire, mais également des activités locales qui continuent et qui sont notamment qui utilisent notamment en fait le réseau des maisons des associations ou des centres d'animation dans les différents arrondissements de Paris.
Et alors, par rapport à d'autres Repair Café qui peuvent exister partout en France, quelle est la particularité du vôtre à Paris, en tout cas Repair Café Paris, cette association?
C'est déjà en fait la première historiquement à s'être créée, à s'être développée. On a très 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 régulièrement et de toute la France des demandes d'appui, d'aide. On a même été sollicité par des initiatives en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti, à l'autre bout du monde, qui nous demandaient comment on s'organisait, comment mettre en place en fait des ateliers de réparation, comment ça fonctionne, de quoi on a besoin, etc., etc. Et donc c'est aussi ça, c'est aussi cette entraide, ce transfert d'expérience. Et puis on dit Repair Café, on dit réparation, mais derrière réparation il y a beaucoup de choses. Il va y avoir à la fois la réparation d'un objet, il va y avoir de l'auto-réparation, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont l'opportunité en fait de venir pour pouvoir
réparer eux-mêmes,
démonter et diagnostiquer la panne. On a des ateliers de couture, on a des ateliers pour des enfants. On fait beaucoup d'activités différentes. On a des partenariats aussi, notamment avec la ville de Paris, qui nous a quand même beaucoup soutenus depuis le début, pour développer nos activités, pour essaimer, pour diffuser, pour animer les structures locales, pour dynamiser les collectifs, avec le soutien de l'association. Nous soutenons aussi des initiatives qui se passent en dehors de Paris, alors sans nous impliquer directement dans l'organisation, mais à partir du moment où il y a des initiatives, nous sommes là pour assurer l'information sur les événements, pour mobiliser notre réseau de bénévoles, hein, autant pour l'organisation que la réparation.
Voilà, un programme très complet hein, pour cette association Repair Café Paris. Notre deuxième invité nous a rejoint. Bonjour Alissa Gemayi.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF.
Merci.
Vous avez pris le temps de reprendre votre respiration.
Oui, en fait, je crois que l'interphone ne marche pas.
Non, mais il n'y a pas de souci. Aucun problème. Bienvenue en tout cas.
Merci.
Vous êtes responsable du pôle projet pour l'association WeFund. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la mission principale de cette association, et dites-moi si je me trompe, c'est d'offrir un accès à l'éducation numérique à des élèves qui sont dans le besoin grâce à la réutilisation d'ordinateurs qui viennent des parcs informatiques des entreprises.
Ouais, la mission de WeFund, elle est double. La première, c'est de lutter contre le gaspillage électronique. Et la seconde, c'est de favoriser l'inclusion numérique. Et du coup, pour ça, le modèle, il est simple. C'est qu'on récupère effectivement des ordinateurs usagés d'entreprises ou de collectivités. On les reconditionne et on les met à disposition. Alors, dans un premier temps, c'est effectivement d'écoles et d'élèves.
Oui.
Et puis, on a évolué vers des dons pour des associations et maintenant pour des particuliers, des familles en situation de précarité, des personnes en recherche d'emploi. À qui on donne ou on met à disposition ce matériel reconditionné. Ouais.
Donc ce sont directement les entreprises qui vous font des dons donc d'ordinateurs, ça peut être des claviers aussi, des souris par exemple.
Oui, on récupère tout le matériel informatique professionnel et donc effectivement c'est des laptops, des écrans, des unités centrales. Des périphériques.
Comment est né ce projet ? C'est écrit par un certain Cyprien.
C'est ça, Cyprien Lefebvre, qui est le directeur et le cofondateur de l'association. Alors, je suis la moins bien placée pour parler d'historique, mais il me semble que c'est né d'un projet étudiant d'abord et qu'un prototype du projet avait été fait à Shanghai pendant la dernière année d'études de Cyprien Lefebvre.
Oui.
Et puis quand il est revenu en France, il a eu envie de développer un peu ça. Et l'idée de base du projet, c'était de mettre en lien des entreprises qui donnaient des ordinateurs, mais qui faisaient également un don financier, et des écoles qui avaient besoin de s'équiper en informatique. Ouais.
C'est une manière, d'après vous, de lutter véritablement, au sens propre du terme, hein, contre l'obsolescence programmée, parce que c'est l'objet de cette émission aujourd'hui.
Oui, parce qu'en fait, en valorisant ainsi du matériel qui est sinon voué à la destruction, je crois que en France, chaque année, il y a 3 millions d'ordinateurs, j'espère pas me tromper sur les chiffres, 3 millions d'ordinateurs qui sont envoyés au recyclage. Et en fait, quand on pense recyclage, en fait, c'est la casse. Le recyclage permet pas de réutiliser et de valoriser la plupart des matériaux des ordinateurs. Et donc, en fait, en leur donnant une seconde vie, c'est une manière, effectivement, de lutter contre l'obsolescence programmée parce que c'est des écoles...
On les jette pas.
Voilà. On les jette pas et c'est des écoles qui achètent pas du nouveau matériel, du matériel qui est de toute façon programmé pour être obsolète au bout de quelques années. Et donc, oui.
Gilles Reynaud, d'après vous, tout est réparable en objet électronique ?
Tout est réparable. Après, et c'est pour rebondir aussi sur la question d'obsolescence programmée, on a des barrières techniques qui sont intégrées dès la conception, dès la fabrication des objets auxquels on est confronté. Alors bon, on les contourne. C'est par exemple la forme des têtes de vis. Hein, ça peut paraître très technique et très... très précis, mais quand vous avez des formes de tête de vis qui sont quand même vraiment faites pour éviter qu'un particulier puisse les démonter et puisse au moins aller regarder comment fonctionne la machine, on a déjà le barrage de base à la première chose, c'est qui est la diagnostication de la panne. Tout est réparable, oui. Tout est réparable. L'important aussi, c'est de comprendre la relation entre la valeur et le prix de l'objet. Dans le sens où c'est pas parce qu'un objet peut se remplacer en dépensant 20 ou 30 euros que le faire réparer n'a pas plus de valeur que ça va en autant d'euros. Dans le sens où, par exemple, la technologie du grille-pain, elle a pas énormément évolué hein, sur ces dernières décennies, voire même plusieurs décennies. Et le fait simplement de l'amener dans un repair café et de faire réparer le système pour faire en sorte que il puisse continuer à fonctionner, c'est déjà ça d'éviter en déchets et qui a un coût environnemental, sociétal, beaucoup plus important que les 20 ou 30 euros qu'on aurait dépensé chez n'importe quelle enseigne pour acheter un œuf.
Ce que vous voulez dire, c'est que un réflexe qui peut exister, c'est ben voilà, le grille-pain ben, ne fonctionne plus, il a flambé, je ne sais quoi. Ça coûte 15 euros un grille-pain, on aurait presque envie d'en racheter un, c'est plus simple.
C'est ça, et c'est avoir une conscience un petit peu plus long terme d'une part, et puis en plus, je pense qu'il y a une relation à l'objet qui peut être importante aussi. Et on a coutume de dire aussi que les repair cafés, le fait que nous soyons bénévoles, gratuits, et ça c'est très très important pour nous, hein, c'est oui. Vraiment fondamental. C'est aussi d'une certaine façon donner de la bienveillance, de l'amour par la réparation. C'est accorder un service. C'est pas un service le repair café où vous amenez l'objet, vous partez, vous revenez quand on vous appelle. Non, vous amenez votre objet, vous restez. Et la plupart du temps, on voit que les gens sont curieux déjà de savoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça fonctionne. Et on s'en aperçoit encore plus avec les enfants. Et là, je peux même en témoigner en tant que papa. Hein, le premier repair café que j'ai fait avec mon fils il y a quelques années, j'ai été surpris par la curiosité de mon fils de démonter un objet, démonter un jouet, démonter un disque dur et regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça déjà une première approche par la curiosité, la compréhension et la volonté de savoir en fait comment ça marche. Et après de se dire c'est mon objet, ça m'appartient et donc j'ai envie de le réparer et finalement de se projeter dans le fait que jeter, c'est de toute façon ouvrir un nombre de conséquences qu'on ne va pas forcément voir parce qu'une fois que l'objet est jeté, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça a un coût, ça a un coût direct simplement pour l'enlèvement, le traitement de l'objet, mais ça a un coût aussi environnemental avec les déchets qui sont créés, avec les polluants qui sont rejetés et forcément les conséquences qu'on doit assumer en tant que personne, en tant qu'être humain et tous les problèmes que ça peut poser.
Vous êtes sur RCF ce matin, on agit contre l'obsolescence programmée avec nos deux invités, avec vos témoignages également au 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui attend vos appels, vos messages également par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours deux invités qui nous accompagnent jusqu'à 11h. Alissa Gemahi, vous êtes responsable du pôle projet pour l'association WeFund. Et Gilles Reynaud, vous êtes le président de l'association Repair Café Paris. On va accueillir tout de suite Jacques. Jacques qui habite à Clermont-Ferrand. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour. Oui, voilà, donc j'écoutais vos émissions, ça m'intéresse aussi, c'est vrai. Et puis, j'ai 70 ans, hein, donc et c'est vrai que j'ai quelques années déjà, je prends conscience un peu du gaspillage un peu au niveau déjà de tous ces appareils électroménagers hein, qui vont à la poubelle, hein, ni plus ni moins, et démontés dans des façons, il faut voir un peu, hein, où on expédie des platines qui pollue hein, dans les pays ou quoi que ce soit, peu importe. Moi, donc, j'ai repris mon travail, étant à la retraite, j'ai repris mon travail en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est vrai que je peux témoigner qu'il y a des appareils, on dirait qu'ils ont été fabriqués avec des fragilités dessus. Vous hein, voyez, je peux vous dire qu'au niveau, par exemple, du chauffage sur la vaisselle, on avait des trucs qui étaient costauds, quoi, des thermoplongeurs, tout ça. Là, maintenant, on a des espèces de qui sont sérigraphiés, qui tiennent pas le coup, hein, et qui font des défauts, qui sont à changer, disons, assez au bout de deux ou trois heures, alors ce qui est pas normal hein, pour un appareil déjà qui sont, je vais pas donner les marques, mais oui. Voilà. Alors on fait beaucoup de comment vous dire de.
Oui, mais je peux pas vous aider.
Appareils hein. Qui sont fragilisés. Oui. Hein, ni plus ni moins, oui, fragilisé, et tout ça pour, disons, consommer, le client à racheter et puis à jeter. Hein, et il faudrait peut-être revenir justement à faire des appareils beaucoup plus fiables, hein, qui tiennent dans le temps, hein, que de voir des montagnes d'appareils achetés. C'est pas normal de revenir à une consommation.
Avec du matériel de bonne qualité. Merci beaucoup Jacques pour ce témoignage ce matin au 04 72 38 20 23. Alissa Gemaï, vous confirmez maintenant les appareils qui sont construits. Alors on va peut-être pas généraliser, mais il y a beaucoup de fragilité.
Oui, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de du monsieur Jacques là qui vient de parler, c'est qu'en fait l'obsolescence programmée, même si on connaît pas le terme et on n'en connaît pas le concept, on le constate toujours au quotidien dans les ateliers qu'on fait avec nos bénéficiaires. En fait, tout le monde nous parle alors effectivement du frigo du grand-père qui tenait qui a tenu toute sa vie,
qui est resté dans le garage pendant 15 ans et qui fonctionne encore.
Totalement. Et en fait, il faut pas oublier que l'obsolescence programmée, c'est avant tout un concept industriel et économique qui a été pensé entre les deux guerres, aux États-Unis pour relancer après la récession. En Europe, il y a eu un cartel en fait des fabricants d'ampoules qui se sont arrangés pour faire durer leurs ampoules moins longtemps. Donc c'est avant tout un concept économique. On s'est envoyé des gens sur la Lune. Il y a moyen normalement qu'on fasse des grille-pains et des imprimantes qui tiennent des années. Donc je trouvais le témoignage du monsieur très intéressant parce que l'obsolescence programmée, elle se vit au quotidien, notamment pour des ménages avec des bas revenus qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter des choses durables ou qui se réparent. Et puis je tiens quand même à dire autre chose, c'est que, alors on a parlé de réparabilité, et c'est vrai que c'est important pour lutter contre l'obsolescence programmée, mais il ne faut pas oublier que l'obsolescence programmée, en fait, on peut la décliner de plusieurs manières. La mode, c'est une sorte d'obsolescence programmée, le fait d'avoir des designs d'objets qui sont à la mode 1, 2, 3 ans et qui ne le sont plus l'année d'après, en fait, c'est susciter du désir chez le consommateur, et même si son portable va très bien fonctionner, bah, il va vouloir en acheter un autre. L'obsolescence logicielle, c'est aussi un autre moyen de faire consommer. On a, notamment pour les téléphones portables, encore
une
fois, des mises à jour qui se font plus au bout d'un moment. Et même si tous les composants de votre téléphone marchent bien, bah, vous allez devoir en acheter au bout d'un moment.
Voilà, l'obsolescence programmée qui passe par plusieurs, comment dire, plusieurs domaines finalement. Ouais. C'est pas propre à l'outil numérique. D'ailleurs, Gilles Reynaud, est-ce qu'il y a des, alors vous avez cité les grille-pains, mais est-ce qu'il y a des outils numériques qui souffrent un peu plus de l'obsolescence programmée que d'autres?
Oui, et surtout par la disponibilité des pièces à certains moments. Alors, là, il faut noter que là, en 2021, on va avoir l'indice de réparabilité qui se généralise, mais qui est finalement, c'est pas une idée si neuve que ça, hein, puisque autant que je sache, des initiatives comme iFixit le font depuis pas mal d'années, autant que je crois que c'est depuis une dizaine d'années hein, que iFixit donne des indices de réparabilité des objets. Le problème, c'est d'avoir la pièce. Et pendant un moment, il y a quelques temps, nous étions confrontés à une série de tablettes qui étaient en fait des tablettes qui étaient offertes avec des abonnements, avec des souscriptions diverses et variées. Et forcément, inévitablement, comme le monsieur, votre auditeur qui témoignait de la déficience de certains gros électroménagers, sur une tablette, la première chose qui va lâcher, c'est la batterie. Bon, le fait d'avoir la batterie standard qui correspond et qui soit remplaçable, c'est déjà un pas essentiel pour pouvoir continuer à utiliser l'objet, sachant que à partir du moment où vous utilisez les fonctions habituelles de l'objet, vous n'avez pas besoin de changer l'objet, vous avez juste besoin de prolonger sa durée de vie. Ensuite, il y a des questions de conception et puis des questions finalement de coût à partir du moment où on arrive à s'inscrire dans la durée. Et c'est vrai qu'il y a un problème notamment pour les personnes qui ont des plus bas revenus de pouvoir arriver à regarder un peu plus dans la durée, plutôt que de changer une machine à café tous les deux ans, mais de se dire peut-être que en essayant de trouver une machine qui soit réparable, c'est-à-dire qui soit conçue dès le départ pour être réparable. Et quand on parle de réparabilité, c'est même pas de changer des composants essentiels comme des composants électroniques, mais c'est simplement la possibilité de changer un joint. C'est que vous avez certaines machines, quand nous les démontons dans les Repair Café, on se dit, mais ça n'a pas été conçu pour être entretenu. Ça n'a pas été conçu pour pouvoir changer une pièce d'usure aussi essentielle que le joint sur lequel vous passez le porte-filtre pour faire votre café tous les matins. Donc la machine a été conçue dès le départ pour être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit finalement, jusqu'à ce qu'une simple petite pièce soit plus changeable, et donc il faut changer toute la machine. Et forcément toute la conséquence, toute la corollaire de pollution que ça entraîne. Et par rapport à la question des outils informatiques et de tous les ordinateurs, que ce soit des ordinateurs de bureau qui sont assez faciles à, en tout cas, on peut changer facilement des pièces, surtout les ordinateurs portables. Pendant pas mal d'années, moi, j'ai utilisé des outils, des portables professionnels. Pourquoi ? Parce que c'était les seuls sur lesquels on avait à la fois les manuels de démontage, parce que ce sont des pièces qui sont quand même spécifiques, hein, qui sont conçues pour être spécifiques au modèle, et la possibilité de pouvoir les racheter. Et c'était la seule façon de pouvoir le faire, et on pouvait en fait trouver de l'occasion parce qu'on avait des stockages de parcs informatiques d'entreprise. Mais c'était là encore des choses qui demandent de s'organiser et qui demandent d'être voilà sur ces deux questions, la disponibilité des manuels et la disponibilité des pièces.
Alissa Gemayi, on rappelle pour l'association WeFun, réduire le gaspillage alimentaire, j'allais dire électronique.
Pardon. Alimentaire aussi, c'est pas notre combat.
Et lutter contre l'exclusion numérique. Vous avez réalisé des projets, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, vous êtes responsable du pôle projet pour cette association. Vous avez des exemples à nous présenter ce matin de ce que vous avez pu réaliser ?
Oui. Alors, notre gros programme phare de l'année 2020-2021, on en a deux en réalité. Le premier, c'est un programme qui s'appelle WeJob, qui vise à équiper et autonomiser au numérique des personnes en recherche d'emploi, notamment des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc en fait, ces personnes, elles reçoivent un ordinateur portable reconditionné qui va être le leur. Elles reçoivent aussi 60 heures d'atelier, parce qu'on a beau avoir un ordinateur, si on ne sait pas l'utiliser, on ne va pas en faire grand-chose. Et puis, pour lutter contre l'obsolescence programmée, elles repartent du programme avec un ticket de maintenance qui est valable 3 ans. Mmh. Et ce ticket, il leur permet pendant 3 ans d'appeler gratuitement une hotline et de pouvoir réparer leur ordinateur ou d'avoir une assistance quand il y a un problème. Parce qu'en fait, un des principaux obstacles au fait de pouvoir utiliser dans la durée des objets, c'est de savoir comment les réparer ou comment les entretenir. Et je pense que c'est important, les initiatives comme les Repair Café ou d'autres services qui se généralisent et qui se démocratisent, pouvoir rendre accessible la réparabilité ou le fait d'avoir du soutien d'une manière ou d'une autre, c'est important. Et dans ce programme en particulier, le premier atelier qu'on fait avec les bénéficiaires, c'est qu'on démonte un ordinateur, leur ordinateur portable. On leur montre comment enlever la barrette de RAM, comment changer de disque dur. Et juste ça, en fait, on se rend compte que c'est des choses dont les personnes sont, pour lesquelles elles sont demandeuses, en fait. Et elles posent
curieuse,
toujours des questions.
Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Gilles. Hein.
Ouais. Curieuse et vraiment en fait en demande de ça parce qu'elles se rendent bien compte, c'est des personnes qui utilisent pas des ordinateurs au quotidien, par contre elles voient leur enfant, leur conjoint les utiliser et en fait au bout d'un moment casser l'ordinateur ou plus l'utiliser, et du coup c'est vraiment quelque chose pour lequel elles sont demandeuses, c'est comment est-ce que je peux prolonger la vie de mon appareil.
Maïté est avec nous depuis Rouen au 04 72 38 20 23. Bonjour Maïté.
Oui, bonjour. Merci pour vos émissions.
Merci.
Qui sont ressourçantes et dynamisantes et puis qui nous donnent aussi à entendre des personnes très diverses. Moi, je fais partie du comité Église verte de mon diocèse de Rouen depuis 2016 et on réfléchissait justement à ces questions de numérique, d'usage du numérique et notamment de l'obsolescence programmée des appareils. Et en écoutant le début de votre émission tout à l'heure, qui disait que l'agir personnel, ça porte sur un quart des... C'est un quart de ce qu'il faut faire, mais le reste, ce sera le collectif aussi qui le portera, qu'on ne peut pas se contenter des actions personnelles des uns et des autres. Je rebondissais sur votre exemple du grille-pain qu'on n'achète pas cher, et donc on va être tenté de reprendre neuf quand le grille-pain précédent est cassé.
Oui.
Et je trouve que ce que proposent vos invités en termes d'apprendre à réparer et de choisir de réparer l'article, c'est important. Mais je me demandais justement au niveau collectif, comment peut-on agir pour que on oblige finalement les fabricants à intégrer dans le coût de l'appareil neuf le coût du recyclage, parce que c'est ça qui est faussé en fait. Un appareil, un grille-pain, ça devrait pas valoir 15 euros. Déjà simplement en termes du coût de la main d'œuvre derrière, on imagine bien comment sont payés les gens qui l'ont fabriqué. Mais en plus, ça n'intègre pas du tout le coût du recyclage qui est quand même très fort. Et si dans les appareils neufs on avait un prix qui était réel, c'est-à-dire intégrant ce coût, et bien le consommateur, en tout cas, il n'y aurait pas photo. Hein, s'il doit doubler le prix pour avoir du neuf, et bien il va réfléchir à deux fois avant d'ouvrir son porte-monaie, et il va se poser la question plus facilement de l'occasion, de la réparation de son appareil. Donc voilà, ma question c'était là. Comment on agit sur le collectif? Quelles sont les pistes pour qu'on puisse obliger à terme les fabricants à changer de leur process de fixation de leur prix du neuf?
Bah voilà une idée intéressante. Merci beaucoup Maïté pour votre appel en direct depuis Rouen. Gilles Reynaud, c'est intéressant ce que nous a raconté Maïté. Moi j'ai quand même l'impression que pour un fabricant, ça n'a aucun avantage de faire ça, de proposer directement le prix de son grille-pain par exemple en incluant le coût du recyclage. Ça freinerait à la consommation, non?
Oui, au-delà de ça, c'est vrai que nous avons un parti pris Ripper Café, c'est de sensibiliser les gens, c'est de sensibiliser les consommateurs. Je pense que la question elle est à ce niveau-là. À partir du moment où un producteur, un vendeur ne vend plus, je pense que là on est vraiment on a mis le doigt, voire même les deux pieds sur la question. Ouais. Dans le sens où si on refuse d'acheter telle ou telle chose, là on a vraiment un geste et on a vraiment clairement concrètement montré ce qu'on souhaite. Et c'est important de bien comprendre que sur ces appareils industriels, donc c'est des appareils qui sont fabriqués sur des conceptions industrialisées. Donc en fait, dès la conception même de l'appareil, on pourrait intervenir pour avoir des appareils qui soient qui consomment moins d'énergie à leur production d'une part, mais surtout après qui puissent être réparables. On a vu par exemple, et c'est important comme question et qui est pas anecdotique, par exemple quand on a parlé de rallonger la durée de garantie, on s'est aperçu qu'en fait la première réaction des fabricants c'était de remplacer à neuf. Donc en fait on réparait pas. On vous donnait en fait un autre appareil, le même ou équivalent, mais finalement celui qu'on avait repris qui fonctionnait plus, il partait en déchets. Donc c'est aussi des questions qui sont très complexes comme ça. Ouais. Il y a de l'éco-participation à chaque achat, à chaque fois que vous achetez un appareil, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou de l'électroménager, petit ou gros, vous avez une participation à son retraitement. Il y a des normes et notamment des normes qui sont liées au fait qu'on est sur un marché commun entre États de l'Union européenne. Qui oblige des indices de réparabilité ou des indices de recyclage. Par exemple, je crois qu'aujourd'hui sur tous les véhicules qui sont mis en tout cas les véhicules particuliers, les voitures particulières, on doit être à une obligation de 90% ou 85% de récupération des matériaux. Mais c'est peut-être pas encore suffisant, et c'est pas suffisant à long terme parce que de toute façon ça a des conséquences et des conséquences dans la durée. On parle aussi de vêtements, c'est aussi d'aller vers les gens pour les sensibiliser, leur dire ben voilà, réparer un bouton, enfin recoudre un bouton, c'est pas si difficile. Faire un ourlet, c'est pas si difficile. Et c'est aussi des services de proximité comme ça qui sont importants de mettre en place. Je pense
c'est de la sensibilisation aussi.
Ouais, c'est ça. C'est la conviction d'aller vers les gens et de sensibiliser les gens, les consommateurs.
Allez, on va se retrouver dans un instant tous ensemble jusqu'à 11h pour cette émission Je pense donc j'agis. Vous avez la parole toujours au 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui réceptionne tous vos appels par mail également d'ailleurs à l'adresse direct@rcf.fr. Et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, dites-nous si vous avez déjà pu constater par vous-même un impact de cette obsolescence programmée dont on parle depuis le début de cette émission sur vos outils, smartphones, imprimantes, ordinateurs, ordinateur, télévision ou même machine à laver. Hein. Et si vous avez pris l'habitude de réparer ou vous-même ou d'aller par exemple dans un repair café, ou au contraire vous préférez jeter pour acheter neuf, on attend tous vos témoignages. 04 72 38 20 23. À tout de suite sur RCF. C'était Maël sur RCF pour vous accompagner en ce lundi matin. Toutes les machines ont un cœur. On attend vos témoignages au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Pendant l'épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner. Que ce soit en téléconsultation ou sur place, en cabinet ou dans les hôpitaux, tout est organisé pour éviter les contaminations. Continuez à prendre vos médicaments et ne reportez pas les examens qui vous sont prescrits. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un bébé, maintenez les rendez-vous de suivi et les vaccinations obligatoires. En cas d'urgence, appelez immédiatement le 15. Retrouvez plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance maladie et de Santé publique France.
Les injustices, la faim dans le monde. Et si on passait du « faudrait que ça change » à « je peux tout changer ». On est des milliers à se sentir concernés. Partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions durables pour soutenir l'agriculture paysanne et vivre dignement. Avec le CCF des Terres Solidaires, agissons sur les causes de la faim, soutenons les projets de ceux qui veulent changer leur vie. Faites un don au CCF des Terres Solidaires. Soyons les forces du changement.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et avec deux invités qui nous accompagnent jusqu'à 11h ce matin pour lutter contre l'obsolescence programmée, Alissa Gemayi, vous êtes responsable du pôle projet pour l'association WeFund, et Gilles Reynaud, vous êtes également avec nous, président de l'association Ripper Café Paris. On a quelques questions de nos auditeurs et des témoignages comme Elisa qui nous parle justement des empreintes, des têtes de vis qui s'emboîtent avec le tournevis, qui sont à chaque fois toutes différentes. Et le réparateur a dû fabriquer lui-même ses propres tournevis maison pour démonter un moteur, par exemple. Voilà, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Gilles Reynaud, comment ça fonctionne pour l'association Ripper Café Paris? Est-ce que c'est à chacun de prendre rendez-vous, préparer sa venue pour pouvoir réparer peut-être un ordinateur, un grille-pain, pour reprendre ce fameux grille-pain?
Alors, actuellement, et depuis un an, on est dans une situation assez exceptionnelle,
oui.
On le sait. C'est vrai que nous avons dû recalibrer complètement nos activités. Pendant le premier confinement, on a pas mal aidé à mettre en place notamment à construire des visières ou autres initiatives locales, parce qu'on n'avait plus en fait les sites qui nous permettent d'organiser les ateliers de réparation des Ripper Café. Maintenant, c'est vrai qu'on a surtout des activités locales, dans le sens où ce sont en fait des activités régulières qui sont menées par des collectifs, mais qui travaillent avec le Ripper Café et qui donc sont labellisés Ripper Café. Comment ça se passe concrètement? Vous avez déjà l'information par notre site web, il y a un calendrier, l'information par notre page Facebook, l'information aussi, on fait des mailings auprès de nos adhérents ou des personnes qui s'inscrivent et qu'on contacte régulièrement pour tenir informé de l'actualité de l'information, et notre site web, Ripper Café Paris. Ce qui est important de voir, c'est que actuellement on essaie de fonctionner surtout par prise de rendez-vous, pour éviter l'affluence et pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui soient simultanément et qu'on ne puisse pas gérer la distanciation des personnes. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a deux types de bénévoles, c'est les réparateurs, mais c'est aussi les organisateurs. Et les organisateurs sont très importants, puisque les organisateurs aident à gérer en fait la file d'attente. Sachant que les réparateurs sont des bénévoles, c'est vrai qu'on organise en fait le passage de la file d'attente. Et puis on ne sait jamais, quand on nous apporte une machine à café ou un robot mixeur, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. On ne sait jamais à l'avance quel est le problème. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre une heure. Souvent c'est les réparations qui prennent du temps, et ça c'est pour un petit peu informer, c'est les réparations informatiques, parce que ça peut être des problèmes logiciels, des problèmes matériels, ça peut être des questions différentes. C'est assez variable comme durée de réparation. On a une adresse email, contact@ripercafeparis. Nous ne prenons pas habituellement les appareils photos, parce que c'est très très particulier, les appareils photos. Les pièces sont petites, et puis surtout la moindre poussière peut endommager l'appareil.
C'est compliqué.
Et là, il faut avoir vraiment des compétences très particulières. Et on évite aussi le gros électroménager, faute de place et faute de capacité. Par exemple, pour pouvoir tester un lave-linge, il faut une arrivée d'eau souvent, et ce qu'on n'a pas forcément sur les lieux dans lesquels on va réaliser nos activités. Par exemple, il m'arrive moi très régulièrement d'aller faire des activités dans le 13e, ou par exemple à l'antenne du Secours catholique dans le 13e, là du côté de Maison Blanche. On n'a pas forcément l'installation qui va bien pour l'arrivée et l'évacuation d'eau et pouvoir tester le lave-linge. On évite, et on demande aux gens qui auraient ce type d'objet de ne pas venir, soit de nous prévenir pour qu'on puisse donner confirmation. On a aussi des activités de téléréparation. Donc téléréparation, où là c'est forcément sur prise de rendez-vous, et où donc à distance des réparateurs vont aider la personne. Et ce qui est toujours un petit peu compliqué, et votre auditrice le disait juste avant, c'est d'avoir les bons outils, voire même de faire face à des situations où le constructeur lui-même a décidé que les têtes de vis seraient particulièrement différentes en fait de ce qu'on utilise habituellement. Ce sera pas un cruciforme, ce sera pas un tournevis plat, mais ça sera
un hexagone,
les têtes de vis pentalobe, ovale, tout ce qu'on peut voir et qui est vraiment délibérément créé pour éviter qu'on puisse ouvrir la machine. Voilà. Bon, après, on s'est équipé pour pouvoir répondre. On s'est équipé et on peut ouvrir ce genre de machine. On peut même changer les vis et mettre des vis normales.
Oui, mais ça, c'est pas illégal. Je vous demandais si l'obsolescence programmée, parce que c'est une forme d'obsolescence programmée, ce que vous nous racontez sur les têtes de vis. C'est un délit, l'obsolescence programmée, non, Alissa?
Alors, il me semble que depuis 2015, il y a une loi qui est passée en France contre et qui fait effectivement d'un délit de l'obsolescence programmée. En revanche, il me semble que ça concerne surtout l'usure des pièces et moins la réparabilité. Je ne suis pas totalement sûre. Et en fait, cette question, ça me fait repenser à ce que disait l'auditrice tout à l'heure sur le pouvoir commun en fait, d'agir là-dessus. Et alors, je vais plutôt parler en mon nom plutôt qu'en celui de Wiffen, mais moi, je crois beaucoup au pouvoir législatif et notamment au pouvoir de la contrainte sur les entreprises. Et je pense qu'en fait, un des moyens de lutter contre l'obsolescence programmée et qui est incontournable, c'est de faire des lois qui soient contraignantes pour les industriels et qui soient surtout communes. Parce qu'on est alors en France, mais on est aussi dans un espace européen commun. Et je pense qu'il est en fait nécessaire d'agir pour avoir des législations contraignantes. Il y a une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée. Qui agit contre ça, notamment, et qui du coup fait du plaidoyer. Et je pense que c'est indissociable du fait d'avoir des initiatives locales comme les Repair Café, comme l'association WeFund et comme d'autres organismes.
Il y a eu des petites victoires ou pas, Gilles Rénaud, sur l'obsolescence programmée de la part des constructeurs, des choses qui étaient acceptées avant, qui sont maintenant interdites, qui ont été modifiées peut-être?
La disponibilité des manuels. Disponibilité jusqu'à présent et jusqu'à l'indice de réparabilité où la disponibilité du manuel est vraiment notée en fait dans le score, la note finale que va obtenir l'objet. C'est vrai que la disponibilité des manuels était un peu complexe. On devait vraiment en fait, on avait plusieurs ressorts. C'était la compétence et l'expérience en fait des réparateurs bénévoles qui connaissent donc les points de défaut et les points de faiblesse en fait des différents objets et donc peuvent plus rapidement aller au démontage et à l'analyse de panne. Mais quand vous avez des objets assez complexes et vraiment très spécifiques avec des pièces très spécifiques, je pense aux smartphones, aux ordinateurs portables, tablettes, etc. C'est vrai que soit vous avez la chance de trouver la vidéo qui va bien, soit vous avez la chance de trouver une page qui va bien, mais sinon c'est beaucoup plus du bon sens. Et même quand vous arrivez à démonter une tablette complètement et que vous retrouvez face une batterie et que vous savez bien que c'est la batterie qui fonctionne pas parce que vous avez fait les diagnostics qui vont bien pour l'identifier, dans ce cas-là vous regardez la batterie, vous n'avez pas forcément les références qui vous permettent de savoir quelle est la batterie de remplacement qui peut être commandé par la personne et donc proposé à cette personne en lui disant voilà, j'ai diagnostiqué votre panne sur cet atelier, dans 2 semaines on sera à tel endroit, revenez avec telle pièce. Et ça, c'est un vrai problème pour la réparabilité et c'est vraiment essentiel parce que la machine fonctionne toujours, c'est juste une pièce qui est défectueuse et une pièce qui est vraiment d'usure parce qu'une batterie c'est juste en fait un réservoir de composants chimiques et qui de toute façon par dégradation vont devenir inopérants quoi.
Alissa Djemaï, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, pour WeFund, ce sont les entreprises qui vous font des dons, des dons de matériel informatique. Comment ça se passe si aujourd'hui, sur RCF, on a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui seraient intéressés par vous donner des ordinateurs? Comment ça se passe?
Eh ben, on a un site web qui est honnêtement plutôt bien fait.
Il est bien, je suis d'accord. Mais comme Repair Café Paris d'ailleurs, hein, je me permets de le dire aussi.
Donc c'est wefun.fr, wefun avec 3 E. Et puis dessus, il y a une page, un formulaire en fait sur l'onglet Nous contacter qui permet de dire si vous êtes justement une entreprise ou une collectivité qui souhaitait donner du matériel informatique. Le formulaire vous pose plusieurs questions et en fait, ça nous contacte directement. Et ça vous met en relation avec nous. En ce moment, en fait, on a une forte demande d'ordinateurs portables, pour la plupart de nos projets. Et puis en plus, on est en train de lancer un programme qu'on n'avait jamais fait jusqu'auparavant, qui est d'équiper directement des élèves et des étudiants et des étudiantes. Et en fait, quand on est étudiant ou étudiante, souvent on n'a pas la place de mettre un ordinateur fixe dans son petit studio. Donc en fait, on cherche beaucoup d'ordinateurs portables en ce moment. Et pour le coup, si des entreprises peuvent nous contacter pour nous en donner, ce serait super.
Bah pour le télétravail, hein, notamment, c'est hyper utile en ce moment.
Ouais. Et puis pour des familles en situation de précarité qui sont dans des logements insalubres ou temporaires, un ordinateur fixe, ce qu'on fait d'habitude, en fait, c'est pas du tout une bonne solution. Donc voilà.
Gilles Reynaud, est-ce que là aussi il y a un gros chantier à faire sur les imprimantes ? Alors je parle des imprimantes parce que moi c'est un casse-tête depuis que je suis né, je crois. Il n'y a pas une seule cartouche qui est pareille, ça coûte une fortune, on se ruine littéralement. On nous dit il vous reste pas beaucoup d'encre alors qu'on a l'impression qu'on vient de mettre la cartouche. Est-ce que là aussi, alors on sort un petit peu du cadre de réparabilité, mais il n'y a pas un gros travail à faire de plaidoyer, comme l'a dit tout à l'heure Alissa, sur les imprimantes ?
Oui, et puis on s'est aperçu par exemple qu'on avait des... En fait, une imprimante, aujourd'hui, c'est un objet très complexe. C'est pas seulement une cartouche d'encre et un système d'entraînement des feuilles. Par exemple, sur les toners d'imprimante, vous avez un jeu de composants qui va en fait communiquer avec l'imprimante. Et qui va communiquer les niveaux d'encre, le nombre de d'impressions, etc. Et on s'est aperçu, par exemple, que certaines machines étaient faites pour vous demander de changer la cartouche alors qu'elle n'était pas encore entièrement vide et qu'elle pouvait encore servir. On s'est aperçu également que certaines machines refusaient, certaines imprimantes refusaient en fait les cartouches d'encre standard et obligées d'avoir en fait la cartouche qui allait bien du constructeur avec le jeu de composants qui était greffé donc sur la cartouche avec. Mais c'est des vrais problèmes et je pense que c'est vraiment aussi des demandes de consommateurs et des vraiment de volonté déjà d'avoir le droit d'utiliser une cartouche standard compatible même si le constructeur n'est pas d'accord, même si le constructeur par exemple vous dit j'annule la garantie si vous utilisez pas mes cartouches d'encre constructeur. Et ça, c'est fondamentalement inadmissible, comme la disponibilité des manuels, comme on a eu beaucoup aussi, et ça, c'est des combats qui vont vraiment être à mener, hein, et de faire comprendre aussi, parce que c'est assez abstrait, mais de faire comprendre aux gens qu'on doit avoir le droit de pouvoir ouvrir nos objets. Il y a de plus en plus de droits de propriété intellectuelle qui empêchent de pouvoir ouvrir tel ou tel objet ou de pouvoir remplacer telle ou telle pièce. Par exemple, vous avez certains smartphones, et je ne veux pas faire particulièrement de publicité, donc je ne vais pas citer la marque, mais où si vous changez une pièce, et si vous n'êtes pas passé par les systèmes de réparateurs et qui permettent au constructeur de faire une marge supplémentaire, etc. Donc si vous payez la surprime, dans ce cas-là, vous pouvez changer la pièce. Mais si vous utilisez une pièce qui a, par exemple, été, entre guillemets, récupérée, vampirisée, mettons, d'un appareil défectueux, donc le même appareil, du même constructeur, vous avez récupéré un micro ou un haut-parleur d'un autre téléphone, vous le remplacez, vous apercevez que ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un blocage logiciel. Et là, c'est un blocage en fait en propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'on vous met comme barrage le fait que vous n'avez pas le droit de d'attenter à la propriété intellectuelle de tel ou tel composant, et donc vous n'êtes pas censé y mettre les mains parce que sinon vous allez toucher sur des secrets d'entreprise, secrets industriels. Et ça, très honnêtement, c'est pas admissible parce que on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la priorité ça doit pas être la vente. La priorité, ça doit être l'usage et ça doit être l'utilisateur, le consommateur. Et c'est vraiment là la question. La question fondamentale, c'est que la valeur, elle est au niveau de l'usage, elle n'est pas au niveau de la vente. La priorité, c'est pas de vendre, sinon de toute façon, on est fichu, quoi. Si on vend pour vendre et si on continue à vendre pour vendre, de toute façon, nos déchets et la pollution qui vient avec nous condamnent.
Alors, il y a une entreprise française d'électroménager, je ne vais pas la citer, mais pourtant, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de bien. Ils proposent d'acheter sur leur site internet, justement, tous les accessoires en pièces détachées pour réparer. Ça, c'est une bonne idée, Alissa Djemaï. Ça devrait se démocratiser un petit peu plus.
Oui, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, les gens sont demandeurs de ça. Déjà, ça fait plaisir en fait de réparer soi-même.
C'est satisfaisant.
De réparer soi-même son objet, de garder le même plutôt que de le jeter, d'en racheter un autre, parce qu'on est aussi attaché à une valeur. Enfin, il y a une valeur sentimentale derrière. Et je pense que ça nous fait aussi remettre en perspective l'idée de tout ce qui est lié à la croissance et à la consommation. Effectivement, enfin, comme le disait Gilles, en fait, vendre pour vendre, c'est une manière en fait de faire de la croissance infinie plutôt que d'être dans une logique circulaire. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit se démocratiser. Mais au-delà du fait de rendre les choses disponibles, il faut qu'elles soient aussi à bas coût, qu'elles soient accessibles à toutes les populations et qu'il y ait un vrai avantage pécunier aussi à réparer plutôt qu'à acheter du neuf. Donc encore une fois, je pense que c'est des choses qui doivent être encadrées et contraignantes pour les entreprises.
Allez, comme tous les matins dont Je pense, donc j'agis, on met en avant des initiatives positives. C'est ce que nous allons faire tout de suite en partant du côté de l'Allier, rejoindre notre chroniqueuse.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et des initiatives positives autour du handicap. On en parle chaque lundi avec vous, Juliette Moyer. Bonjour.
Bonjour Melchior.
On parle de cintre aujourd'hui.
Oui, et parfois la solidarité va se loger dans le détail. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec ma première histoire du jour, celle d'une personne qui m'a été signalée dans l'Allier. Alors c'est un papa, une maman qui font face à la maladie de leur enfant et ils l'accompagnent depuis un an à l'hôpital d'Estaing à Clermont-Ferrand. Des parents qui doivent se soumettre à un protocole vestimentaire très strict et donc déposer tous leurs vêtements avant d'aller voir leurs enfants en chimio. Alors vous allez me dire, oui mais et alors ? Eh bien, sachez que les cintres pour poser les habits sont en très mauvais état, ce qui fait qu'on est obligé un petit peu de laisser ses habits comme ça. Alors cette famille, elle s'est tournée vers l'entreprise Laguel et le spécialiste d'articles de ménage en plastique qui est basé à Cône-d'Allier, dans l'Allier, eh bien, n'a pas hésité une seconde. Il a fait don d'une trentaine de cintres au CHU de Clermont-Ferrand et n'hésitera pas d'ailleurs à recommencer si cela est nécessaire.
Alors ça, c'est la première histoire. Juliette, on passe à la ferme tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ?
Oui, alors cette fois-ci, je vous emmène en Isère, à Gilonnet, où il y a Romain Pourreau qui a 31 ans. Il élève près de 200 brebis et 230 poules pondeuses. Et c'est un agriculteur également qui est engagé auprès d'une association, Le Bercail Paysan. Cette association travaille sur l'accueil résidentiel de 3 à 6 adultes en situation de handicap et à l'accueil en journée de particuliers et ou de groupes provenant de structures médico-sociales encadré par leur éducateur. Et Romain, eh bien, reçoit chaque matin entre 3 et 10 personnes en situation de handicap qui multiplient les activités, comme par exemple le ramassage des œufs ou encore le nettoyage des cages à lapins. Une activité qui apparemment a de vraies vertus d'inclusion sociale, mais aussi de confiance en soi. Et puis cerise sur le gâteau, d'œufs de poule, bien sûr. Les produits ainsi récoltés sont ensuite revendus à la ferme pour le plus grand plaisir des clients sensibles, bien sûr, à cette démarche.
Et on termine notre tour des jolis gestes dans le Gard avec une table itinérante d'expression, Juliette.
Et oui, c'est l'une des initiatives de la 7e édition « Ensemble avec nos différences, échangeons sur le handicap ». Depuis le 8 mars et jusqu'au 30 mars, cette initiative propose de multiples activités sur le secteur du Gard, comme des ateliers autour de art et handicap ou encore un concours d'affiches chez nous. On aime la différence, vous pouvez d'ailleurs participer, hein, Melchior, comme beaucoup de personnes. Et puis bien sûr, il y a ces tables itinérantes d'expression. Je trouvais une très jolie idée. Elles vont en fait à la rencontre des passants. Et l'idée, elle est très simple. Ce sont des tables où chacun vient écrire sur un petit bout de papier un petit mot autour du handicap, souvent très positif, comme le handicap, eh bien voilà, c'est quelque chose qui construit, enfin, des petites choses qui font du bien. Et puis d'ailleurs, j'en profite, hein, c'est la semaine de la poésie, Melchior, vous le savez. J'aimerais terminer sur ces quelques mots que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de cette manifestation, div.cscodyssée.fr. C'est un texte de Christophe Rodolfi, il l'a écrit exprès pour l'occasion. Et dans ce texte, il s'adresse à son handicap comme à un ami. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques lignes. Quoi dire de plus ? Tu es là, il faut l'accepter. Mais ce chemin est paré de tellement d'embûches où nos membres se lâchent et trébuchent. Vivre avec toi, c'est ma seule vérité. Croire en demain, tel est mon destin. Alors vous, les valides, ne soyez jamais juges de cette amitié sincère qui est mon maudit refuge. Voilà, des mots qui, j'espère, vous iront droit au cœur, Melchior, aujourd'hui.
Merci beaucoup, Juliette Moyer, pour ces belles initiatives que vous avez mises en avant ce matin dans Je pense donc j'agis, et qu'on peut d'ailleurs réentendre en podcast sur notre site rcf.fr. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de Gilles Reynaud, vous êtes le président de l'association Ripper Café Paris, et Alissa Gemahi, vous êtes responsable du pôle projet pour l'association WeFund. Des projets réalisés, il y en a beaucoup hein, pour l'association. Quel est votre avenir? Qu'est-ce que vous allez faire en 2021?
Alors déjà en historique, je pense qu'on a maintenant équipé peut-être 8 structures au moins et bénéficié à au moins 1000 personnes. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur l'année 2021-2022, on va essaimer deux de nos programmes en particulier, WeJob, dont je parlais tout à l'heure, à destination des personnes en recherche d'emploi, et WeHome, qui est un programme qui est né pendant le confinement, qui nous a permis d'équiper presque 400 familles de la ville de Lyon qui avaient des enfants scolarisés, qui ne pouvaient pas faire l'école à la maison pendant le confinement. Sauf que les besoins, ils n'ont pas disparu après le déconfinement. Et du coup, c'est un autre programme qu'on cherche à essaimer sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on va continuer nos partenariats avec des associations et des écoles pour pouvoir les équiper et qu'elles puissent accompagner leurs bénéficiaires avec des outils numériques reconditionnés.
Gilles Reynaud, il y a aussi un projet que vous avez pu mettre en place au sein de Ripper Café Paris, c'est la Ripper Academy. Qu'est-ce que c'est que ça ?
La Ripper Academy, c'est une base documentaire, c'est une base qui permet en fait de savoir comment diagnostiquer une panne et comment donc 90% en fait du travail hein, sur la réparation, c'est le diagnostic de la panne. Donc de savoir comment fonctionne un objet, quels sont les différents composants, comment changer un composant. Et ça, c'est un. Vous pouvez y accéder directement par notre site, hein, ripercaféparis.fr, forcément accessible à tout le monde, pas seulement aux Parisiens. Je voulais dire aussi à votre autre invité,
Alissa,
je vous incite à Alissa à vous rapprocher des réseaux de l'insertion par l'activité économique, et notamment, je pense aux groupes comme Groupe Arès ou Emmaüs, qui sont certainement, je pense, en demande, en support à leur activité de remobilisation socio-professionnelle, et qui ont des activités justement de récupération, de tri et éventuellement de revente d'objets qui sont opérationnels, mais qui pourraient vous permettre aussi d'accéder à certaines ressources de d'ordinateurs à reconditionner, à réparer et à remettre en circuit par vos activités.
C'est des partenariats qu'on a déjà et qu'on souhaite justement développer, parce qu'au bout on est encore une petite association, donc effectivement on veut pas collecter tout le matériel existant sur la région, et en plus on n'a pas toujours la main d'œuvre nécessaire pour reconditionner de gros volumes. Donc c'est des partenariats qui existent déjà, ces partenariats avec les structures d'insertion par l'activité professionnelle et l'activité économique, et qu'on souhaite développer sur 2021-2022. Ouais.
D'accord. Bah, écoutez, c'est une très 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 bonne chose. Je sais qu'ils sont en demande, et puis ça fait une connexion. Ouais. Nous, notre mot d'ordre, hein, on vous disait, c'est réparer, ne pas jeter, et d'une certaine façon, c'est donner de l'amour par la réparation. C'est rendre un service. On parlait du grille-pain, on parlait de la machine à café. Moi, j'ai une anecdote en tant que réparateur moi-même, pour avoir bricolé des ordinateurs pendant 25 ans, donc avant de le faire pour les Ripper Café, mais d'une personne qui était assistante juridique dans un cabinet d'avocats, qui un jour arrive avec un ordinateur et qui me dit je suis en panique complète, je viens de passer mon oral d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats et mon ordinateur ne démarre plus, je peux pas réviser les écrits. Et là, bon, j'ai réussi à trouver pourquoi, j'ai réussi à dépanner son ordinateur, mais ce qui était extraordinaire, c'est le regard et le et le ravissement de cette personne
et,
et ce contact humain qui est finalement la chose la plus importante. C'est le service rendu aux personnes bénévolement, gratuitement.
Eh ben merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette émission. Gilles Reynaud, je rappelle que vous êtes le président de l'association Ripper Café Paris. On peut retrouver plus d'informations sur le site rippercaféparis.fr et puis des Ripper Café, il y en a dans toute la France. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet pour vous renseigner. Alissa Gemaï, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle projet pour l'association WeFund. Là aussi, on peut retrouver plus d'informations sur le site WeFund.fr. Oui, avec 3 E.
Oui.
Je mettrai le lien sur la page de cette émission sur rcf.fr. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Hugo, à Catherine, à Nathan. Je vous retrouve demain avec le même plaisir entre 9h et 11h, un an après le début du premier confinement. Émission spéciale. À demain, passez une bonne journée avec RCF.